Que le nom du Seigneur soit béni. Ce dernier cantique exprime bien ce que nous avons à partager ce soir, à savoir l'importance de comprendre que c'est la grâce de Dieu qui accomplit l'œuvre en nous. J'aimerais partir d'un verset, parce que c'est le début de l'année, et pour beaucoup de gens, ils prennent des résolutions. Et il y a un texte dans la Bible, dans Ésaïe, au chapitre 30, qui nous parle de la façon dont Dieu voit les résolutions, certaines résolutions. Ésaïe, chapitre 30, c'est bien que ce verset soit dans sa parole. Il nous parle des résolutions. On peut prendre des résolutions, à tort et à travers. D'ailleurs, la preuve, c'est que la majorité des gens disent « Mais maintenant, je ne prends plus de résolutions parce que je ne les tiens pas. » Vous l'avez jamais entendu, ça ? Eh oui. Pourquoi ? Eh bien, on va le voir ce soir. Ésaïe, chapitre 30, verset 1er. On va lire les deux premiers versets. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. » Retenez bien cette parole. « Qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte, c'est l'image du monde, sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. » Nous voyons donc dans ce texte que toutes les résolutions ne sont pas bonnes. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous le voyons bien. Ce n'est pas parce qu'on prend des résolutions en début d'année et que l'on dit « voilà, je vais arrêter ceci, je vais me mettre à cela, je vais faire du sport, je vais faire autre chose, je vais m'y tenir, c'est sûr et certain, et ça tient jusqu'au 5 janvier. » Et pour les plus voyants, au 25. C'est vrai ou c'est pas vrai, hein ? C'est souvent. Et là, nous avons une indication que Dieu nous montre, à savoir qu'on peut prendre des résolutions n'importe comment. Ça nous indique bien que sans la grâce de Dieu, on ne va pas pouvoir tenir. Alors que dans la Bible, on voit l'importance d'avoir des cœurs résolus. Par exemple, lisez avec moi dans 1 Chronique. Alors, il y en a des versets. J'ai regardé dans la concordance. Il y en a des versets qui nous parlent de la résolution. On voit, par exemple, dans 1 Chronique, au chapitre 12, et au verset, on va prendre que le verset qui nous intéresse, 33. C'est au début de la royauté de David. Le peuple était tellement enthousiaste d'avoir un nouveau roi qui était selon le cœur de Dieu, que je peux vous dire que beaucoup d'hommes se sont levés pour combattre et amener la bénédiction dans le pays. Regardez par exemple 1 Chronique chapitre 12, verset 33. « De Zabulon, 50 000, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. » Vous voyez, dans ce seul verset, il faudrait lire tous les chapitres. Mais vous voyez dans ce seul verset des hommes qui se sont levés pour combattre, pour amener la bénédiction sur le peuple d'Israël, parce qu'ils avaient trouvé un roi qui était selon le cœur de Dieu. Mais dites-moi, nous, est-ce qu'on n'a pas trouvé un roi quand même supérieur à David ? Est-ce que le roi qui est notre roi, notre Seigneur, n'est pas plus grand que le roi David ? Et Dieu ne trouverait-il pas parmi son peuple des hommes résolus à combattre de bon cœur, à se revêtir de toutes les armes de Dieu ? Lorsque Dieu voit quelqu'un qui s'intéresse à lui, il peut lui communiquer cette faveur. Mais il faudra comprendre, et c'est le but de cette réunion de ce soir, que ça ne peut se faire que par la grâce. Lorsqu'Élisée a été appelé, Élisée, c'était le fils d'une famille riche, puisque quand il a été appelé par Élie, il était en train de labourer avec la 12e paire de bœufs de la famille, donc c'était certainement une famille aisée qui s'apprêtait à ensemencer pour récolter une belle récolte. Et quand Élie est arrivé, de suite, je vous le résume, vous le savez, cet homme s'est immédiatement déterminé à rentrer dans le service auquel Dieu l'appelait. De suite, il a pris l'attelage, il en a fait un feu, il a pris les bœufs, il les a sacrifiés en holocauste au Seigneur, il a embrassé ses parents et il a suivi Élie. Ça s'appelle la détermination, la résolution et la consécration. Et ça, c'était une résolution qui tenait debout, qui était appréciée de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle dépendait de la grâce de Dieu. Il y avait sur le comportement d'Élisée un désir vraiment d'aller jusqu'au bout. Et la preuve, si vous lisez le livre des Rois, vous verrez comment Élisée a été toujours déterminé à faire l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il a appris que son maître allait être enlevé au ciel, il l'a suivi, alors que tout était à l'encontre, tout était fait, même par ses collègues, tout était fait pour le dissuader. Lui, il a dit « Non, je ne le laisserai pas, je ne te quitterai pas ». Et vous savez comment la bénédiction est venue sur cet homme qui était résolu. Oui, il y a des résolutions qui ne tiennent pas parce qu'elles sont faites d'une manière charnelle, humaine, et il y a des résolutions qui tiennent parce que les hommes qui prennent ces résolutions ne dépendent pas de leur force, mais dépendent de la grâce de Dieu. Daniel, ce jeune homme qui a été amené en captivité parce qu'il faisait partie des jeunes qui semblaient présenter quelque chose de bon. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une résolution. Regardez, on va la lire dans Daniel au chapitre 1er, au chapitre 2. C'est important ce soir de comprendre bien, parce qu'il y a trop de chrétiens qui sont déçus, découragés, fatigués, qui abandonnent la foi, et pourtant qui ont pris des résolutions. Vous n'en avez jamais rencontré des chrétiens qui ont pris des résolutions formidables et qui ont perdu la foi ? Non ? Ah bon ? Mais c'est bien. Daniel chapitre 1er. N'oubliez pas que cet homme a dû perdre toute sa famille. Ses parents ont sans doute été tués. Quand on voit le contexte, je peux vous dire que c'était la déportation, la deuxième déportation. Laissez-moi vous dire qu'ils ont été enlevés, amenés en captivité, très loin de chez eux, d'Israël à Babylone, environ 1400 kilomètres. Et voilà qu'ils se retrouvent. Et qu'est-ce qu'ils décident ? Daniel chapitre 1er, verset 8. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques à ne pas l'obliger à se souiller, parce que cette nourriture était sacrifiée aux idoles. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, ça n'aurait aucun cas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Il y a des endroits où on mélange tout ça, la nourriture avec le spirituel. Dans le Nouveau Testament, ça n'a aucune raison d'être, aucune raison d'être. Mais là, dans l'Ancien Testament, ça avait quelque chose, c'était quelque chose de très sérieux par rapport à la nourriture. Il y avait beaucoup de significations spirituelles. Et toutes les viandes étaient sacrifiées, étaient présentées à des idoles. Et Daniel ne pouvait pas accepter ce compromis. Par contre, aujourd'hui, nous, il y a de la nourriture qui est mauvaise. Ce n'est pas la nourriture des aliments, c'est ce que le monde nous propose. Je pense que par le biais d'Internet, par le biais de la télévision, par le biais d'autres sources, nous sommes nourris. Et il y a de la nourriture qui est vraiment mauvaise. Et un homme aujourd'hui qui prendrait la résolution d'imiter le comportement de Daniel est quelqu'un qui prendrait donc la décision, la détermination de dire ça, je ne m'en nourrirai pas parce que ce n'est pas sain, ça souille mon esprit. Est-ce qu'un chrétien peut regarder des films d'une grande violence ? Est-ce qu'un chrétien peut regarder des films pornographiques ? Dites, répondez-moi.
Non.
Est-ce qu'un chrétien peut regarder un film érotique ? Non. Tout ça, ce sont des choses qui souillent le cœur. Ne nous étonnons pas que bien des églises périclitent si nous nous acceptons de nous nourrir de choses qui vont nous souiller. Daniel, malgré le fait qu'il ait été amené en captivité, il n'a pas dit « ouais, si Dieu existait, on ne serait pas dans ce pétrin », en plus que lui, il n'a rien fait. C'était un jeune homme, c'était la faute des pères, et on n'a pas le temps de l'expliquer. Il aurait pu dire « ouais, qu'est-ce que c'est ce travail ? Franchement, si Dieu existait, il n'aurait pas permis qu'on soit amené en captivité, si loin de la maison, moi mes parents sont morts, un frère est mort, etc. » Enfin, c'est moi, j'explique, c'est certainement ce qui a dû se passer. Non, il avait décidé de garder dans son cœur la crainte de Dieu, quel que soit ce qui s'était passé en Israël. Et je peux vous dire qu'il ne doit pas regretter de l'avoir fait, car les prophéties de Daniel prophétisent des choses qui touchent à notre temps. Quand on lit les prophéties de Daniel, quand on étudiera l'Apocalypse, on étudiera en parallèle le livre de Daniel, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'indications dans Daniel qui nous permettent de comprendre l'Apocalypse. Mais voyez, cet homme, il a pris la résolution. Un homme qui veut prendre des résolutions doit bien comprendre que ce n'est pas avec ses forces qu'il va y arriver. C'est très important, car le Seigneur nous reprend. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu peut nous reprendre? Est-ce que Dieu peut nous corriger? Est-ce que Dieu corrige? Est-ce que c'est écrit dans la Bible que Dieu corrige et châtie celui qu'il aime? Et Dieu le fait. C'est quelque chose d'éprouvant. Nous, on ne comprend pas, parce que nous, on croit que Dieu est qu'un Dieu d'amour et que, voilà, Dieu ne peut nous accorder que sa bonté, sa miséricorde, sa grâce, etc. Et on ne réalise pas que Dieu est capable de nous éprouver, de nous interpeller et même d'une manière sévère. Je vais prendre l'exemple d'Ézéchiel. Quand Dieu va parler au peuple par le biais du prophète Ézéchiel, c'est d'une sévérité incroyable. Quand Dieu va parler au pasteur du temps du prophète Ézéchiel, je peux vous dire que c'est d'une manière très sévère. On pourrait dire que ce sont des véritables coups de fouet que le Seigneur nous assène. Pourquoi? Alors, justement, c'est juste avant Ézéchiel. Dans Ézéchiel, au chapitre 2, je voudrais que vous compreniez bien qu'une résolution sans la grâce de Dieu, ça ne tient pas. Et que des résolutions ne peuvent être bénies que si vous recevez, si nous recevons sa grâce. Dans Ézéchiel, au chapitre 2, vous avez déjà lu Ézéchiel? Vous comprenez Ézéchiel? Hein? Vous comprenez tout Ézéchiel? Moi, je ne comprends pas tout encore. Mais il y a des choses que je réalise de plus en plus. C'est un livre extraordinaire. Hein? Regardez, déjà le premier verset et le verset 2 nous indiquent que ce que Dieu nous demande, nous ne pouvons l'accomplir que si l'Esprit de Dieu nous aide. Regardez avec moi, Ézéchiel chapitre 2, verset 1er. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, regardez bien, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Donc, on voit que même que pour que Ézéchiel puisse faire ce que Dieu lui demande, tiens-toi debout sur tes pieds, il ne va pouvoir le faire que lorsque le Saint-Esprit vient en lui. Vous êtes d'accord avec moi? Déjà, nous comprenons tout ce que l'apôtre Paul enseigne dans l'Épître aux Romains, que pour faire ce qu'il nous demande, il faut que ce soit lui qui le fasse dans notre vie. C'est pour ça que la Bible parle de la foi de Christ en nous. C'est la sienne. Alors, regardez le message qu'il va adresser. C'est quand même sévère. Ézéchiel 2, verset 3. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils seront comme prophètes et au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. » Amen. Prédication à donner dimanche matin. Voilà, de la part du prophète Ézéchiel. Vous avouerez que c'est un message très sévère, non? Est-ce que c'est sévère? Pourquoi Dieu est-il obligé de parler de la sorte? Eh bien parce que le peuple de Dieu n'obéissait pas. Il se détournait petit à petit et sans qu'il ne s'en rende compte, il devenait rebelle, insensible, indifférent. Et Ézéchiel va devoir apporter ce message, mais quand vous lisez la suite, parce qu'on ne peut pas prendre un texte, c'est ça le travers des sectes, le travers des chrétiens qui sont déséquilibrés ou qui sont mystiques, ils prennent un texte et ils l'interprètent n'importe comment. Et quand vous lisez un texte comme celui-ci, vous dites, ben voilà, si c'est ça Dieu, comment il nous parle, comment il nous rabroue, quelle sévérité, ça c'est un véritable coup de fouet que Dieu m'assène, je ne le comprends pas. Mais quand vous lisez la suite, quand vous lisez par exemple Ézéchiel 37, où Dieu amène Ézéchiel dans la vallée d'ossements desséchés, ces ossements qui sont tous, qui représentent le peuple de Dieu qui est mort, et donc incapable de faire quelque chose, il lui pose la question, ces os pourront-ils revivre? Est-ce que des os peuvent revivre? Voilà, oui, voilà. Mais sans Dieu, est-ce que des os peuvent revivre? Est-ce qu'une église qui est morte peut revivre? Est-ce que si vous parlez à des ossements, essayez de parler à des os. Essayez. Allez, remettez-vous ensemble. C'est impossible. Une église qui est morte, qui est tiède,
une église qui ne va pas bien, des chrétiens qui ne vont pas bien, c'est pas en leur disant, voilà, vous êtes des rebelles, ça ne va pas, améliorez-vous, échangez, et faites ci, et faites là, que ça va se produire. Et quand vous lisez, et on va le lire parce que c'est quand même ce qui est important, c'est pour ça que j'ai pris ce verset, malheur à ceux qui prennent des résolutions sans moi. Dans Ézéchiel, à partir du chapitre 36 en particulier, on voit justement que Dieu est en train de leur dire, mais comment il va faire? Comment le Seigneur va faire? Regardez, on va lire Ézéchiel 36, verset 24. Vous allez voir. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. » Qui c'est qui agit là? C'est Dieu. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et on peut dire, ouf, et merci Seigneur. Donc, il y a la constatation de ce qui ne va pas et il y a la solution. La solution, c'est pas « allez, bougez-vous et améliorez-vous ». La solution, c'est la grâce de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, on perçoit dans ce texte que uniquement la bénédiction de Dieu ne peut venir, la vie de Dieu ne peut venir que par la puissance de Dieu. Du Saint-Esprit. Regardez quand il dit au chapitre 37, vous connaissez ce texte? Bon, il y a tout un travail qui se fait, et regardez au verset 9, il me dit, prophétise, parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse, et vous pouvez dire Amen. Parce que la bénédiction vient parce que l'Esprit de Dieu vient. La bénédiction revient, ce peuple qui était un véritable cimetière redevient une armée puissante, non pas parce qu'ils ont utilisé leur propre force, mais parce que le Saint-Esprit est venu en eux. Et c'est ce dont nous aussi, nous avons besoin. C'est pour ça que faites très attention à vos résolutions, en disant, voilà, je vais y arriver. Vous n'arriverez pas. Vous pouvez y arriver peut-être dans le domaine physique, dire, voilà, je vais me déterminer à faire un peu plus attention à ceci, à cela. Mais dans le domaine spirituel, vous n'y arriverez pas sans la grâce de Dieu. Ce n'est pas possible. Tout l'enseignement de l'épître de Paul aux Romains nous enseigne que sans la grâce, nous ne pouvons pas y arriver. Mes frères et sœurs, c'est vrai que le message, les premières prédications d'Ézéchiel, c'était d'une sévérité pas possible. Et Ézéchiel a dû même être étonné quand il voit Dieu, après qu'il dit, mais non, je le ferai moi, je leur donnerai, je répandrai, j'agirai, je les pardonnerai, je les purifierai. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Pour qu'on comprenne bien que par nos propres forces, on ne peut pas rien faire. Il est certain que Dieu veut que nous prenions des résolutions. Dieu veut que nous soyons déterminés. Dieu veut que nous soyons consacrés. Dieu veut que nous le fassions dans un bon état d'esprit. Pourquoi voudrions-nous voir la gloire de Dieu? Pourquoi, au fait? C'est une question que Dieu peut nous poser. Beaucoup de gens ont voulu voir la puissance de Dieu, mais pour eux. Pour eux-mêmes, pour se mettre en avant, pour, je ne sais pas, peut-être pour glorifier leur nom, leur dénomination. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on dit, voilà, tu vois, Seigneur, on est l'église évangélique, on voudrait donner la pâtée aux catholiques, la pâtée aux... C'est ça qu'il faut? Est-ce que c'est ça que vous aimeriez? Est-ce que vous aimeriez dire, voilà, nous, on veut être une belle église parce qu'on va leur montrer? Oh, je l'ai entendu, ça. Pas au milieu de nous, mais je l'ai entendu. On va leur montrer. Je ne pense pas que ça soit un bon état d'esprit de dire, on va montrer aux autres ce que nous, on sait faire. Je ne pense pas que ça plaise à Dieu, ça. Je crois que si on veut voir la gloire de Dieu, c'est vraiment pour que son nom soit élevé, pour que lui soit glorifié, pour que son nom parcourt notre nation. Voilà, mais ce n'est pas pour nous mettre en avant. Et je crois que c'est très très important de savoir pourquoi nous voulons voir le Saint-Esprit agir. Car je peux vous dire que Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre, vous le savez. Alors il y a cette façon de voir les choses, voyez, de prendre des résolutions, de se consacrer, de se déterminer, etc. On pourrait prendre plein d'exemples dans la Bible, on voit comment Dieu s'y prend, voyez, pour interpeller, comment des hommes se saisissent, se ressaisissent, comment Dieu va devoir donner un petit coup de fouet pour nous dire, mais c'est vrai, ça va pas, de notre côté, bon, on va pas y arriver de nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit qui va le faire, mais voilà, ça se fait avec une foi vivante. Car la grâce de Dieu, ce sont les 99%, qui sont le plus important, mais il y a un détonateur, c'est notre foi. Vous avez observé dans la parole de Dieu qu'à maintes reprises, lorsque Jésus guérissait quelqu'un, je pense à la femme à la perte de sang, qui s'est trouvée arrêtée sur le chemin, Jésus va dire, ma fille, ta foi t'a délivrée, ou sauvée, en fonction de guérie, en fonction des versions. Donc, Jésus s'arrête, il dit, qui m'a touché ? Tout le monde te presse et tu demandes qui te touche. Et mais il y avait quelque chose qui s'était passé. Et Jésus aurait pu dire, écoute ma fille, bon c'est bien ce que tu as fait, c'est bien. Ma puissance t'a guéri. Est-ce que quelqu'un aurait pu dire quelque chose ? Toutes les fois où Jésus a guéri quelqu'un, où quelqu'un a été guéri par Jésus, est-ce que Jésus aurait pu dire, la puissance du Dieu du ciel t'a guéri ?
Oui.
Bien sûr. Mais personne aurait trouvé, tout le monde aurait trouvé ça extrêmement normal. Et pourtant, presque toutes les fois, lorsque Jésus a béni, guéri, délivré quelqu'un, il a mis l'intervention sur la foi de la personne. Vous l'avez remarqué, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a délivré, ta foi t'a guéri. Alors pourtant, que c'est Dieu qui a fait tout le travail. À 99%, c'est Dieu qui a tout fait. Mais il met en avant cette foi vivante. Car même si nos résolutions ne servent à rien sans la grâce de Dieu, même si c'est la grâce de Dieu qui accomplit tout à 99%, il est certain que cette grâce de Dieu se manifeste lorsque un homme met sa foi vivante dans le Seigneur. Et c'est pour ça que les chrétiens doivent veiller à avoir une foi vivante. Et les chrétiens qui s'appuient sur leur propre force abandonnent la foi. Vous avez déjà vu des gens qui disent, moi je vais faire ça, je vais venir à toutes les réunions, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais jeûner une fois par semaine. Voilà, le gars il se dit, bon mais ça va plaire à Dieu, Dieu va m'aider. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Et on voit des chrétiens abandonner la foi. C'est un signe de la fin des temps. C'est ce que c'est écrit. Pourquoi quelqu'un abandonnerait la foi ? Qu'est-ce que c'est que vous avez abandonné, vous, dans votre vie ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez abandonnées ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abandonner un vieux blouson qui valait plus rien ? Est-ce que vous avez déjà jeté des trucs ? Vous avez abandonné des choses parce que pour vous, elles ne servaient à rien. Et c'est normal. Quand un chrétien abandonne la foi, ça vous donne l'idée de la valeur qu'il lui donne. Quand quelqu'un a une foi vivante, laissez-moi vous dire qu'il n'est pas prêt de l'abandonner. Et les chrétiens qui rétrogradent, les chrétiens qui abandonnent la foi, c'est eux-mêmes qui le font. Ce sont des chrétiens qui certainement ont mélangé leurs œuvres, leurs propres forces et véritablement la grâce de Dieu. Car moi je crois que quand quelqu'un dépend de la grâce de Dieu, il n'est pas prêt d'abandonner le Seigneur. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui ayant vraiment dépendu de la grâce de Dieu et abandonné la foi ? Vous avez connu quelqu'un ? Moi je ne crois pas, j'en ai pas encore connu. Et quand on abandonne la foi, c'est qu'on s'est appuyé sur ses propres forces. Quand vous attendez quelqu'un qui dit « Oui, mais je prie, mais ça ne sert à rien, j'ai jeûné, on m'a même dit de jeûner 3 jours, j'ai jeûné 3 jours, eh bien si c'est ça, jeûner !» Mais vous avez là une indication sévère de quelqu'un qui cherche par les œuvres la bénédiction. C'est une grâce de pouvoir jeûner. Est-ce que c'est une grâce ? Mais est-ce que Dieu est obligé de nous bénir parce qu'on jeûne ? Est-ce que ça commence comme ça dans le royaume de Dieu ? Non. C'est une grâce de pouvoir se priver de nourriture un jour ou deux, je ne sais rien, pour chercher la face de Dieu. C'est une grâce que quelqu'un dit, tiens, mais cette journée, je la passe seule devant Dieu à lire ma Bible, à prier. C'est une grâce. Mais Dieu n'est pas obligé de vous bénir parce qu'on a passé 12 heures à lire la Bible, à prier. Si Dieu nous bénit, c'est une grâce. Qu'on ait passé 12 heures ou qu'on ait passé 10 minutes. Ce qui est important, c'est que tout ça soit vécu par la foi. Et malheur aux gens, malheureux sont les gens, on va diminuer le terme, malheureux les gens qui poussent les autres à dire il te faut passer du temps dans le jeûne et Dieu te bénira. Et encourageons les gens, mais ne les amenons pas à faire certaines choses en pensant que parce qu'ils vont les faire, ils vont être bénis. On ramène ce qu'on a critiqué dans notre religion à avoir la bénédiction par les œuvres. Et vous savez que ce n'est pas par les œuvres qu'on est béni, c'est par grâce. Et que nous ayons cette foi vivante, Jésus, oui, a dit à cette femme, ta foi t'a délivré. Oh mes frères et sœurs, que nous ayons cette foi vivante. Vous êtes d'accord? Une foi vivante. Seigneur, ce que tu as dit, je le crois. Je crois que Dieu veut guérir. Est-ce que Dieu peut guérir un malade maintenant? Est-ce que Dieu a besoin de 3 mois pour guérir quelqu'un? Est-ce que Dieu a besoin de 3 semaines pour sauver quelqu'un? Est-ce que Dieu peut guérir maintenant? Voilà. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, en 2012, que des hommes passent des ténèbres à la lumière? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que des fils prodigues retrouvent le chemin de la maison? Bien sûr, vous savez que toutes ces choses sont sérieuses. Le Seigneur Jésus-Christ s'est chargé de nos iniquités et de nos maladies. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous le savez, c'est par ses meurtrissures. Toute l'affaire du calvaire nous indique que Dieu veut continuer à bénir et à guérir. Alors il faut laisser le Seigneur nous parler et nous faire réfléchir. Je termine avec un exemple. Notre frère, tout à l'heure, dans sa prière, indiquait toutes les fois où Dieu, pour rétablir, s'est approché. Il a fait allusion à Adam, oui, quand Adam a péché, c'est Dieu qui l'a cherché. Il a fait allusion à certaines situations. Oui, heureusement que Dieu ne nous abandonne pas quand nous, nous le fuyons et qu'il sait revenir. La foi de Thomas, on le sait, on a souvent parlé de Thomas et de son affaire d'incrédulité. Quand Jésus, avant de mourir, leur parler, qu'il ne devait pas se troubler, qu'il allait leur préparer une maison dans le ciel, etc., qu'il leur fait des promesses plus belles les unes que les autres, et qu'il dit, voilà, vous savez le chemin, vous connaissez le chemin, vous savez où je vais, vous en connaissez le chemin. Et là, on voit Thomas qui réagit, mais non, ce n'est pas le chemin. Il a passé 3 ans et demi avec le Seigneur, et lorsque Jésus dit, vous connaissez le chemin, Thomas révèle par cette question qu'il est en train d'avoir de gros problèmes au niveau de la foi. Et Jésus lui dit, mais Thomas, tu ne sais pas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors tant mieux que cette affaire se soit passée, comme ça nous savons comment un homme peut aller de la terre au ciel, par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Si vous vous posez des questions par rapport au salut de votre âme, vous ne pouvez aller au ciel que par le Seigneur Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Il avait l'indication. Il savait, et puis la suite indique bien ce qu'il va faire. Vous avez lu Jean 14, 15, 16 et 17. Et nous voyons que le jour de la résurrection, à la réunion où il aurait dû être, il n'était pas là. Et quand il arrive et qu'il voit les 10 apôtres qui disent, nous avons vu le Seigneur, il est réellement ressuscité, nous voyons un homme qui n'a pas fait de progrès. C'est le jour de la résurrection, mais il est en train de perdre la foi. La preuve, il dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. 8 jours après, il est à la bonne place. Que Dieu nous accorde d'être à notre place. Je crois que parfois, nous sommes privés de la grâce de Dieu parce que nous n'étions pas là où Dieu voulait que nous soyons. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut arriver, ça? Est-ce que c'est important d'avoir des réunions, par exemple? Est-ce qu'on est à notre place ce soir? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous croyez que c'est votre place de venir dans un lieu de culte, d'écouter la parole? Est-ce que le dimanche, on est à sa place lorsqu'on vient adorer le Seigneur? Oui? Bon. Thomas est passé à côté d'une bénédiction. Heureusement que Dieu est patient et que 8 jours après, il s'est retrouvé. C'est lui, le Seigneur, qui a encore été vers lui. Voyez, malgré la sévérité, malgré le châtiment, malgré vraiment les sermons sévères que le Seigneur peut nous adresser, nous voyons que c'est lui qui doit faire quelque chose. C'est pour ça que les résolutions, je le répète, les résolutions sans Dieu ne servent à rien. Strictement rien, sinon à vous décourager et à vous faire perdre la foi. Et lorsque le Seigneur Jésus revient dans la chambre haute, de suite il leur dit « la paix soit avec vous ». Quand Jésus vient, en principe, il nous redonne la paix qu'on a perdue. Voilà un roi qu'on reconnaît, quelqu'un qui se trouve dans la présence de Dieu. Dieu lui redonne la paix. Bien sûr qu'il va falloir peut-être régler certaines choses, mais il faut le faire. Et Jésus va dire à Pierre quelque chose d'extraordinaire. On a commencé la prédication avec le mot malheur. Eh bien, vous allez voir comment on va la terminer. Jean chapitre 20. Dans Jean au chapitre 20, Jésus s'approche de Thomas. Il est en train de perdre la foi. Pourtant, il a passé 3 ans et demi avec Jésus-Christ.
Est-ce que vous auriez aimé passer 3 ans et demi avec Jésus-Christ? Oui? Bien moi, oui. Jean chapitre 20, verset 26. C'est important de comprendre que quand on est en train d'abandonner la foi, Dieu nous parle. Quand Jésus avait dit à Thomas, quelques jours avant, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il faisait allusion, bien sûr, à la vie éternelle. Et il devait savoir qu'il ne mourrait pas. Est-ce qu'il le leur avait déjà dit ? Je dois mourir, je dois souffrir, le Fils de l'homme sera maltraité, mais il ressuscitera. » Est-ce qu'il leur avait dit ? Et ils ne le croyaient pas. Et le problème, il est là, c'est qu'on ne croit pas ce que Dieu dit. Si moi, ce soir, je vous dis, par la parole de Dieu, que vos efforts ne servent à rien s'ils ne dépendent que de votre propre volonté, croyez-le, vous n'y arriverez pas. Vos efforts seront récompensés s'ils ce sont des efforts pour faire confiance à Dieu. Et ne pas faire confiance à vos efforts. Il faut juste changer la phrase. Faites-vous confiance à vos efforts ou faites-vous des efforts pour faire confiance? C'est la façon dont on le tourne, ça fait toute la différence. Jean chapitre 20, verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Il était à la bonne réunion. Soyez-y aux réunions où Dieu veut que vous soyez. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Pourtant, je peux vous dire qu'il méritait, là, je pense qu'il méritait autre chose. Humainement, vous voyez. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. J'essaie de m'imaginer sa tête. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Vous voyez, il n'est pas dans le doute là. Il était en train d'abandonner la foi. C'est pour ça que je sais ce que je dis, dans le sens où le Seigneur lui parle d'incrédulité. Le doute, ce n'est pas trop méchant. Mais quand Dieu commence à nous parler d'incrédulité, laissez-moi vous dire qu'on n'est pas sur une bonne voie. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. S majuscule, D majuscule. Ça veut dire qu'il est conscient maintenant qu'il a vu Jésus ressuscité, qu'il est Dieu incarné. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Alors, laissez-moi faire la parenthèse, malheur à ceux qui se confient dans leur résolution, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous sommes dans cette catégorie-là. Quand Jésus a prononcé cette parole, il pensait à nous, à tous les chrétiens qui sont venu sur la terre après son ascension. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Est-ce que vous croyez ce que nous venons de partager? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est une grosse erreur de la part d'un pasteur de vous pousser à prendre des résolutions, à faire ci, à faire ça? Et j'espère que vous allez en prendre des résolutions qui correspondront à la volonté de Dieu, qui correspondront peut-être à un service pour Dieu, car il est impossible qu'un chrétien bouillant ne puisse pas servir Dieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme un homme qui est amoureux de sa femme, il est impossible qu'il ne l'exprime pas, cet amour. Ce n'est pas possible, et vice-versa. Il y a des choses, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et par déduction, quelqu'un qui est rempli de Dieu ne pourra pas ne pas le servir. Malheur à ceux qui prennent des résolutions sans Dieu. Malheur. Malheureux, c'est la même chose. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient que c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. C'est pour cela, quelle que soit la sévérité que Dieu aura à votre égard, soyons intelligents, acceptons la sévérité de Dieu. Mais sachons que s'il y a sévérité de Dieu, c'est pour que derrière, nous comprenions que c'est sa grâce qui le fera. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mes frères et sœurs, vous savez qu'on a entamé depuis plusieurs semaines plusieurs prédications sur la vie de l'esprit. Celle-ci en fait, malgré tout, partie, parce qu'elle nous montre, au travers d'Ézéchiel, déjà dans l'ancienne alliance, que la nouvelle était déjà incluse dans l'ancienne. Il la présente déjà, c'est par l'esprit qui fera, qui donnera, qui purifiera, qui relèvera. Alors, de grâce, ne vous appuyez pas sur vos forces. Quand on a chanté « Que le faible dise, je suis fort », cette parole, si on ne l'explique, on devrait, les meneurs de chant là, quand vous chantez ce cantique, vous devriez donner une petite explication. Parce que ça fait vraiment méthode couée ce chant, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile. Que le faible dise je suis fort, ça fait vraiment le gars, il faut être fort, répète-le, je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Ça va vous fatiguer, et vous serez de plus en plus faible. Mais laissez-moi vous dire que ça veut dire que justement le faible, il ne s'appuie plus sur lui-même, il s'appuie sur la grâce de Dieu. C'est ce que Paul dit, je me plais dans les faiblesses, car c'est là que la puissance de Dieu s'accomplit. Les mélodies de chant, veillez-y, quand un passage d'un cantique reprend comme ça un verset de l'écriture qui est vraiment du patois de Canaan pour un nouveau, c'est bien que vous le fassiez. Jérémie l'a fait dimanche matin en présentant, je crois, un cantique. C'est important de le comprendre. Mes frères et sœurs, les résolutions sans Dieu vous amèneront à abandonner la foi. Les résolutions avec la grâce de Dieu vous permettront de faire l'œuvre de Dieu. Malheur à ces résolutions, bénis soient ceux qui ne voient pas, mais qui croient ces choses. Dieu les bénira. On ferme les yeux quelques instants. Notre Père, notre Dieu, nous croyons que tu es un Dieu de grâce. Et quelle que soit la sévérité avec laquelle tu peux reprendre ton peuple, comme nous venons de le lire dans Ézéchiel, c'est que derrière, tu as un projet d'amener ta grâce, de nous faire découvrir ta grâce. Seigneur, tu nous l'as encore rappelé, montré ce soir, tu sais où nous en sommes chacun, tu sais ce que tu peux faire au travers d'une église, même qui ressemblerait à un cimetière. Seigneur, tu es capable de remettre la vie, de restaurer, de donner par ta puissance la restauration, la vie nouvelle, un cœur nouveau. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas prendre des résolutions stupidement, bêtement, avec avec la pression des hommes. Non, Seigneur, nous voulons vraiment croire en ta grâce, que ta grâce est éternelle, que tu la répands sur tous ceux qui se confient en toi. Seigneur, tu nous vois, tu savais qui ce soir viendrait dans ta maison. Nous le savons, si Thomas, malgré les 3 ans et demi qu'il a passé avec toi, n'a pas pu comprendre, Seigneur, nous ne comprendons pas si ta grâce ne nous éclaire pas. Alors Seigneur, s'il te plaît, ce soir, mets dans nos cœurs cette conviction profonde que c'est la révélation du calvaire que nous avons besoin d'avoir, la révélation de la résurrection, du baptême du Saint-Esprit, pour que comme Ézéchiel, au-delà de la sévérité, nous réalisions que c'est toi qui fais toutes ces choses. Donne-nous cette soif, Seigneur. Donne-nous cette soif, comme Thomas, de nous retrouver au bon endroit pour entendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous le demandons pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur.